Bienvenue dans cet épisode de notre podcast « Le droit dans ses bottes », une émission proposée par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. « Le droit dans ses bottes » vous promène à travers la France, sur les pas d'un ou d'une avocate, en bottes de chantier donc, pour revivre un projet de construction marquant et innovant. Pour accompagner les idées parfois folles de leurs clients, ces hommes et femmes du droit sortent de leur caisse à outils les instruments juridiques adaptés au territoire et créent des solutions nouvelles. Je suis Sophie Dauzon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui, je vous emmène à Lyon, dans un quartier en pleine mutation, aux abords de la gare de la Part-Dieu. Le projet que nous allons évoquer est d'une telle ampleur qu'il me fallait bien deux invités pour en parler, Jean-Marc Petit et Cyril Delcombel. Bonjour Jean-Marc, bonjour Cyril.
Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie.
Alors pour faire connaissance, je vais vous demander de vous présenter en trois phrases.
Donc Jean-Marc Petit, je suis avocat depuis 2001. J'ai une double formation d'urbaniste et de juriste de droit public. Et je n'ai pas dévié de cette formation-là. Mes domaines d'intervention sont l'urbanisme, l'aménagement, en conseil et en contentieux. Et mes bottes de chantier et chaussures de ville, elles sont surtout à Lyon, en région Rhône-Alpes-Auvergne. Mais je les emporte souvent avec moi en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, région où j'interviens également.
Cyril Delcombel, écoutez, moi aussi je suis resté fidèle mais à ma région lyonnaise après un bref séjour à Paris et ça fait maintenant 11 ans que j'exerce en qualité d'avocat. Je suis publiciste d'origine spécialisé dans les contrats publics. J'ai un peu trahi mes pairs ces dernières années parce que quand on fait du droit de la construction ou du contentieux commercial, effectivement on se retrouve rapidement entre privatistes.
Donc on part à Lyon avec vous. Et où nous emmenez-vous exactement? Décrivez-nous un peu le site.
Alors, nous vous emmenons dans la capitale des Gaules et plus précisément dans le quartier de la Part-Dieu. Le quartier de la Part-Dieu, c'est le plus grand quartier d'affaires hors Île-de-France où, effectivement, autour de ce quartier, nous avons une gare, la gare éponyme de la Part-Dieu. Nous avons un centre commercial, le fameux centre commercial de la Part-Dieu, un pôle d'échange multimodal avec tramway, métro, bus, taxi, vélo et tout ce qu'on veut pour desservir effectivement toute la métropole depuis la gare de la Part-Dieu. Et nous avons aussi tout un tas d'entreprises très performantes dont les tours sont le symbole parce qu'elles s'érigent effectivement depuis ces dernières années.
Votre client, c'est la métropole de Lyon. Elle est venue vous voir pour une mission au très long cours. De quoi s'agissait-il?
Alors c'était il y a 10 ans, c'était en 2011. Ce qui était une mission interne au Grand Lyon, c'est-à-dire la mission Part-Dieu, nous a contactés pour faire un simple brainstorming sur les outils juridiques à mettre en place à la Part-Dieu. Alors, l'objectif de l'opération, il est assez simple, c'était de densifier ce quartier d'affaires, de le rendre plus agréable au quotidien aussi pour ses habitants et pour les personnes qui se rendaient à la gare. La particularité sur le plan juridique et sur le plan des outils, c'est que finalement, ce qui portait le projet Part-Dieu, c'était essentiellement des projets privés qui étaient menés sur des terrains privés par le plus souvent des institutionnels. Et c'est la particularité de ce dossier. Il y avait un portage politique assez fort, une ambition assez marquée, mais finalement peu de portage foncier public. L'opération reposait plutôt sur des interventions privées. Donc ce qui a commencé par un simple brainstorming s'est prolongé par une mission de conseil complète auprès de la métropole et auprès de la société publique locale, SPL, Part-Dieu, qui a été créée spécialement pour cette opération en 2014.
Alors on va entrer dans le détail du premier gros volet de cette mission, Jean-Marc. Qu'est-ce que vous avez mis dans la boîte à outils pour construire ce morceau de ville?
Alors depuis 2011, on a utilisé beaucoup d'outils. On a commencé par la création de la SPL en 2014. Et puis, avec la création de la SPL, on a co-rédigé la concession d'aménagement. Ensuite, on a mis en place une ZAC, une zone d'aménagement concertée, sur une partie du périmètre. La concession d'aménagement couvre 177 hectares, ce qui est en milieu urbain assez important. Et la ZAC couvre une surface qui est proche de la gare de la Part-Dieu, qui est à peu près d'une trentaine d'hectares. Alors, avec la mise en place de cette ZAC, nous avons élaboré les calendriers prévisionnels avec Aegis Conseil. Nous avons audité les dossiers de création et de réalisation de la ZAC. Nous avons été aussi confrontés aux observations très critiques de l'autorité environnementale. Et puis, nous avons mis en place une déclaration d'utilité publique sur une partie de la ZAC, ce qui est plutôt rare. Nous avons ensuite co-écrit le plan local d'urbanisme, qui devait s'appliquer spécifiquement à l'opération, avec François de Coster de l'AUC, qui a reçu cette année le Grand Prix de l'urbanisme, et pour écrire les dispositions qui concernaient les socles actifs des constructions à édifier. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé à la rédaction de contrats, les conventions de participation dans la ZAC, participation financière, les conventions d'association avec les promoteurs, pour bien coordonner les interventions en termes de travaux, et puis des conventions de projet urbain partenarial, les conventions de PUP, en dehors de la ZAC. Et puis nous avons aussi beaucoup œuvré à la présentation de permis de construire distincts pour Vinci Immobilier et pour Gare et Connexion, permis qui portait pour l'un Vinci sur une nouvelle tour de 170 mètres, de 80 000 m² de surface de plancher, et qui portait aussi sur la gare rénovée, puisque la gare d'Appardieu devait doubler de surface. Donc, nous avons écrit les principales dispositions communes à ces deux permis de construire dans le cadre d'une jurisprudence qui est bien connue des porteurs de projets complexes, qui est la jurisprudence Ville de Grenoble. La jurisprudence Ville de Grenoble, c'est un arrêt du Conseil d'État qui oblige, lorsque des constructions sont indivisibles, à présenter une seule demande de permis de construire et non pas plusieurs. Simplement, cet arrêt a prévu un certain nombre d'exceptions. Et de ce fait-là, les ensembles immobiliers indivisibles peuvent faire l'objet, à certaines conditions très restrictives, de plusieurs permis de construire. C'est cette faculté dont nous avons profité pour l'immeuble de Vinci et la rénovation de la gare de l'Appardieu. Ce sont là les projets qui sont en cours de réalisation actuellement. La tour de Vinci, Taulion, est en cours de réalisation avec la rénovation de la gare et avec la place basse qui contient notamment une vélostation de 1500 places. Donc ce sont les projets qui sont en cours de réalisation. Et à propos de ces réalisations, nous avons aussi travaillé sur des documents un peu plus particuliers, comme la charte chantier, qui était destinée à encadrer les livraisons pour qu'elles ne soient pas trop une gêne pour le quotidien des usagers de la gare et des habitants.
Donc on le voit, c'est un millefeuille de chantier ce projet. Et vous, Cyril, vous avez été chargé d'anticiper les contentieux en gérant le pré-contentieux. Donc racontez-nous comment ça se passe.
Oui, comme l'a dit Jean-Marc, effectivement, on a énormément de chantiers qui doivent se dérouler en même temps. Et une fois qu'on a fait tout cet aspect théorique avec les différents documents, on doit mettre les mains dans le cambouis. Moi, ici, ce ne sont pas véritablement les mains qu'on a mis dans le cambouis, c'est plutôt les bottes qu'on a mis dans les égouts. Et on a dû gérer effectivement une complexité particulière parce que ce quartier, pour rien de se cacher, c'est une véritable réinvention qu'on lui a fait faire. La construction en elle-même a impliqué de nombreux chantiers, de nombreux projets, des aménagements d'espaces publics nouveaux, avec plusieurs maîtres d'ouvrage distincts, des promoteurs privés, des aménageurs publics, en l'occurrence ici c'est la SPL Lyon-Pardieu que Jean-Marc a accompagné dans sa construction. Et tous ces chantiers sont actuellement en construction, se sont chevauchés, parfois se font concomitamment, successivement. Et toute la difficulté c'est qu'on est également dans un environnement très vivant, la gare de l'Appardieu. Au quotidien, il y a des milliers de voyageurs qui prennent le train, nous avons également des gens qui y habitent, et donc on a dû anticiper toutes les éventuelles nuisances et impacts que pouvaient avoir les chantiers en organisant ce qu'on a appelé les référés préventifs. Les référés préventifs, c'est quelque chose qui commence à être très connu depuis une dizaine d'années, notamment pour les assureurs, où on veut faire un constat préventif des avoisinants pour regarder l'avant et l'après chantier, regarder s'il y a eu ou non des impacts, éventuellement les prévenir, en prenant un homme de l'art, un expert judiciaire, généralement un architecte ou autre technicien, qui va donner des préconisations. Et ici, en fait, la difficulté que nous avions, c'était que nous avions des promoteurs privés, nous avions également la SPL, chacun avait ses chantiers, chacun donc avait ses propres référés préventifs, mais nous avons quand même obtenu, devant les différents tribunaux, parce que les promoteurs privés allaient devant le tribunal judiciaire, nous sommes allés devant le tribunal administratif, mais nous avons obtenu la nomination d'un expert commun. Il y a différentes missions, différentes ordonnances, mais c'est toujours le même expert qui est nommé. Alors ce dernier connaît maintenant la Pardieu comme sa poche, parce que cela fait un peu plus de 5 ans environ qu'on en arpente les moindres recoins. On lui a tout fait faire aussi, on lui a fait visiter les moindres entrailles de la Pardieu. Je vous parlais des égouts tout à l'heure. Effectivement, avec tout ce système de canalisation qui est installé sous la Pardieu pour les eaux usées et les eaux pluviales. On a également les canalisations moins connues où se situent les réseaux électriques, de gaz, et où on peut voir, géologiquement, c'est intéressant, l'apparition de stalactites du fait des conditions géothermiques. Et nous avons également, en plus des entrailles, vu toutes les élévations, c'est-à-dire que nous avons vu toutes les toitures de la Pardieu. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons pris nos bottes, mais nous avons pris également les grosses combinaisons de chantier, si ce n'est parfois les masques à gaz, pour faire tous ces constats. Et une difficulté, véritablement une grosse difficulté, mais juridiquement c'était intéressant, c'est que normalement, quand on fait des référés préventifs à Lyon, le référé préventif classique, on doit faire un constat préalable avant la démolition ou avant la construction, avant le démarrage des travaux, en tout état de cause. Et ici, c'est-à-dire que nous avions tout un tas de chantiers successifs ou qui se chevauchaient, comme je vous l'ai dit, et ces chantiers contenaient plusieurs phases et nécessitaient effectivement que nous fassions plusieurs constats avant chaque phase. On ne pouvait pas s'arrêter de manière brute par un constat tout démarrage des travaux, parce que cela n'avait pas de sens. On aurait pu démarrer en faisant un constat en 2015, mais si en 2020 on a toujours des opérations à faire, effectivement le premier constat aurait été caduque. Donc on a pu expliquer aux différents juges, juges judiciaires et juges administratifs, qu'il était opérationnellement et techniquement plus simple qu'on ait un expert qui soit désigné au long cours et auquel nous puissions faire des différents constats à différentes périodes critiques de démarrage de chantier, ou alors quand on arrivait aux abords d'une autre construction qui elle aussi était en chantier. Donc il nous arrive de faire régulièrement tous les 3 à 6 mois des différents constats pour une même opération, et ce depuis plusieurs années.
Si vous deviez ne retenir qu'un seul élément, qu'est-ce qui vous semble particulièrement marquant dans ce dossier?
Alors, comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'a marqué dans ce dossier, c'est l'échelle géographique. On est sur 177 hectares, mais c'est aussi l'échelle temporelle. Ce que je disais tout à l'heure, nous sommes sur 5 ans d'opération, si ce n'est plus. On va rester effectivement dans les chantiers jusqu'en 2030. Et effectivement, on a une ampleur de projet telle qu'on peut voir au quotidien son évolution, mais ce n'est qu'à la fin, en 2029 ou 2030, qu'on verra le résultat final.
C'est un peu dingue, une telle durée de projet pour les juristes que vous êtes.
Effectivement, quand on voit l'échelle du projet, quand on a démarré en 2011, qu'on va finir en 2030, moi, mes enfants, au début du projet, ils étaient en poussette, et à la fin, ils vont prendre le train tout seuls. C'est dire quand même l'évolution. On est passé d'une génération à l'autre, d'une poussette à une autonomie complète des enfants.
Oui, c'est passionnant de travailler sur des opérations comme celle-là. Moi, j'étais peut-être un peu prédestiné, puisque un de mes enseignants à l'Institut d'urbanisme de Lyon, c'était le concepteur du projet Pardieu initial, Charles Delfante, qui nous parlait souvent de cette opération pour nous dire que les politiques, à l'époque, n'avaient pas vraiment suivi ces recommandations. Alors, quand les enfants de Cyril seront adultes, le projet aura évolué. Il a déjà évolué, hein, puisqu'avec les élections, à la suite des élections municipales et métropolitaines, le projet a été modifié. Le programme de construction a été diminué. Le nombre de logements a été augmenté. Le nombre de mètres carrés de surface de plancher de bureaux a été réduit. Et le programme d'équipement public a été revu pour être plus qualitatif, plus amène, notamment pour les piétons, et plus végétalisé. Et on le voit, le projet a changé, et beaucoup de choses peuvent encore se passer dans les années à venir et avec la mise en œuvre de la deuxième phase du projet.
Merci Jean-Marc, merci Cyril. Ainsi s'achève la première saison du Droit dans ses bottes. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouveau Tour de France.